Mondoscopie, un magazine coproduit par RCF et Radio Vatican.
C'est un bilan de santé de la planète que nous vous proposons cette semaine dans notre magazine à travers trois exemples d'actualité. D'abord, la sécheresse en Amazonie, un phénomène inhabituel dans la région, puis la déforestation dans le monde. Il y a de moins en moins d'arbres à la surface du globe, selon un dernier rapport international. Et enfin, le réchauffement climatique. En Europe, dans quelques dizaines d'années seulement, nos habitudes et notre quotidien pourraient être bouleversés par un brusque changement de climat. Déforestation et pollution. L'homme n'épargne pas le poumon du monde, l'Amazonie est sans cesse mise à mal, alors qu'un nouveau danger menace la région. Cet automne, le fleuve Amazone a été touché par une forte sécheresse, un phénomène inhabituel pour le territoire que les scientifiques expliquent par des hypothèses surprenantes. Cette sécheresse pourrait notamment avoir un lien avec la dernière vague des cyclones dans les Caraïbes. La corrélation prouve une nouvelle fois que dans le monde, tout est lié. Nous avons interrogé Josiane Ronchard, climatologue spécialiste du bassin amazonien. Témoignage.
Il y a eu notamment un référendum au Brésil en octobre et une bonne partie des communautés qui vivent le long des rivières et qui se déplacent essentiellement grâce aux rivières n'ont pas pu participer par exemple à ce référendum sur la vente des armes au Brésil. Les conséquences sont aussi très importantes pour les populations de poissons. Beaucoup de poissons sont morts faute d'eau. Bon, la conséquence est importante aussi pour les populations qui se nourrissent de ces poissons. L'incertitude, là, est au sujet du renouvellement, en fait, des stocks de poissons. Par ailleurs, il y a un certain nombre d'espèces qui sont plus rares, comme des dauphins d'eau douce, qui se sont échoués, en fait, faute d'eau.
Alors comment vous expliquez ce phénomène de sécheresse qui a touché le fleuve Amazone ?
Ce que l'on constate en même temps que ces étiages extrêmement bas, ce sont des anomalies de température forte dans l'Atlantique nord tropical, qui est anormalement chaud. Et donc on peut imaginer une relation de cause à effet entre donc l'océan et ses débits via une circulation atmosphérique qui n'apporterait pas autant de vapeur d'eau que d'habitude. Et donc, faute de vapeur d'eau, les précipitations et les débits seraient moins importants.
Donc on pourrait imaginer vraiment un lien direct entre les cyclones, par exemple l'intensité des cyclones qui ont frappé les Caraïbes et cette sécheresse en Amazonie.
Bon, il y a de fortes chances effectivement que les cyclones soient liés à cette anomalie de température sur l'Atlantique Nord, puisque des températures de surface océanique plus chaudes favorisent en effet le développement des cyclones. Donc on peut imaginer que les deux phénomènes, cyclones et très bas étiage en Amazonie, soient liés effectivement à cette anomalie de température de surface de l'Atlantique.
Alors est-ce que c'est lié au réchauffement, ce fameux réchauffement dont on parle très souvent ?
Si la cause est la température de surface de l'océan Atlantique, les séries historiques montrent que ces températures de surface évoluent de façon cyclique. Donc des températures comme celles qui sont observées actuellement l'ont été déjà par le passé. Des étiages très bas, comme je vous disais tout à l'heure, en Amazonie, ont déjà été observés, y compris au début du XXe siècle, donc à une époque où il n'y avait pas d'impact très net au niveau des températures globales de l'augmentation des gaz à effet de serre.
Est-ce que l'homme peut influencer ces phénomènes hydrologiques finalement ?
Ce qui est beaucoup projeté aussi en Amazonie, c'est la canalisation en fait de certaines rivières de façon à ce qu'elles deviennent des voies fluviales permanentes au cours de l'année afin que les étiages notamment n'empêchent pas le transport pendant les basses eaux. La construction de ces canaux peut perturber aussi l'environnement, notamment déjà discuté à propos d'une vaste zone d'inondation qui se trouve en amont du bassin du Paraná, celui qui débouche donc à Buenos Aires. Il y a une vaste zone d'inondation qui s'appelle le Pantanal et qui est actuellement une réserve très importante au niveau végétal et animal et qui est menacée justement par le creusement de canaux pour rendre permanente la circulation des bateaux bateaux qui sont essentiellement destinés à l'exportation vers l'Atlantique des produits agricoles, produits de façon industrielle, soit dans le sud du bassin amazonien, soit dans le nord du bassin de la Plata.
Et de la même manière, de quelle manière l'homme influence-t-il le climat dans la région ?
D'autres façons d'influencer le climat, c'est par exemple au travers des feux de forêt, soit pour le développement des pâturages, soit pour préparer la mise en culture, injecte dans l'atmosphère des quantités très importantes de particules. Particules qui tendent à modifier le bilan radiatif, puisqu'elles s'opposent à l'arrivée du rayonnement solaire vers la surface de la Terre. Bon, certains scientifiques pensent que ces brûlis, donc très abondants à la fin de la saison sèche, donc en septembre, octobre, empêchent un bon apport radiatif à la surface, un bon développement donc de la convection, c'est-à-dire de la formation des nuages et donc des précipitations. Du coup, ces feux de forêt tendraient à reculer le démarrage de la saison des pluies dans les régions où il est pratiqué.
Et à part ces feux de forêt, il y a aussi d'autres phénomènes qu'on peut remarquer ?
Alors, il y a des déforestations en elles-mêmes aussi, déforestations dont les modèles montrent qu'elles tentent à réchauffer la surface, à faire diminuer l'humidité en surface. Et bon, forcément, s'il y a diminution de l'humidité par évapotranspiration, puisque la forêt n'est plus là, eh bien, il y aura moins de précipitations.
Alors, une dernière petite question. Vous, en tant qu'observatrice, vous êtes évidemment chercheuse, mais vous avez vu cette région. On est souvent inquiet, on dit souvent qu'on est inquiet pour l'Amazonie et pour le monde. On dit que l'Amazonie est le poumon du monde. Est-ce que vous partagez cette inquiétude ?
Bon, ce qui est très inquiétant, c'est la perte de diversité, biodiversité énorme qu'il y a quand on défriche la forêt. Bon, il y a l'équivalent d'un département français qui est défriché au moins chaque année, 25 000 km² uniquement au Brésil. On n'a pas beaucoup de chiffres dans les autres pays amazoniens. Donc, il y a de quoi être effectivement inquiet. J'ai vécu un petit peu au Brésil aussi. Il y a une autre région que l'on oublie et qui a été déforestée aussi de façon considérable. C'est toute la région au sud de la forêt dense, une région donc de savane arborée, qui a pratiquement complètement disparu au profit donc de la culture industrielle, du soja par exemple. Bon, quand on voit cela, quand on voit la beauté de ces lieux et la richesse au niveau des espèces, de ces forêts, surtout pour nous qui venons d'Europe, on voit toujours des forêts où bon, les arbres sont tous de la même espèce, etc. Bon, c'est effectivement dramatique qu'elles disparaissent, surtout pour faire de la monoculture extensive pour l'exportation en fait.
Il y a de moins en moins d'arbres dans le monde. La déforestation reste alarmante selon le dernier rapport des Nations Unies. Chaque année, 13 millions d'hectares de forêts disparaissent. Derrière les chiffres, une véritable inquiétude écologique, celle du réchauffement climatique. Les arbres sont le plus grand réservoir de gaz carbonique. Ils se nourrissent et absorbent ce gaz que nous rejetons en trop grande quantité dans l'atmosphère par nos activités industrielles et urbaines. Les arbres nous permettent finalement de protéger la couche d'ozone. Le monde a certes pris conscience du danger de la déforestation. Dans les pays occidentaux, on assiste même à une inversion du phénomène. Les politiques de reboisement et de réhabilitation des forêts portent leurs fruits, mais le problème reste d'actualité dans les pays les plus pauvres, en Afrique notamment, où les paysans pratiquent encore la culture itinérante, une agriculture d'un autre temps, principale responsable de cette déforestation. Un problème bien évidemment écologique, mais également social. C'est ce que nous explique Jean-Prosper Coyot de la FAO, l'organisation onusienne pour l'agriculture et l'alimentation.
Les populations dans les zones tropicales vont chercher de la terre fertile sous forêt, parce que c'est sous forêt qu'il y a un peu d'humus, un peu de matière fertilisante. Quand le paysan va dans la forêt, coupe la forêt, installe son premier champ, il va récolter pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et après 3 ans, ce sol sur lequel il a fait son champ est dégradé. Il y a plus de fertilité puisque toutes les matières fertilisantes ont été utilisées par les plantes ou par les cultures que le paysan a donc réalisé. Et le paysan est obligé pour le prochain champ de quitter l'endroit où il a fait son premier champ et de se retrouver encore sous forêt pour toujours à la conquête des matières fertilisantes. Donc ce type d'agriculture qui se déplace dans la forêt dégrade fortement la forêt et c'est ça, c'est une des causes principales de la déforestation dans les zones tropicales. Voilà, c'est ça qu'on appelle agriculture itinérante. On n'apporte rien, donc on part chaque fois à la conquête de bonnes terres, mais les terres qui sont dégradées, la forêt revient difficilement.
Alors, peut-être faut-il, avant de comprendre les causes de cette agriculture itinérante, qu'est-ce qui pousse, est-ce qu'on peut contrôler cette agriculture itinérante? Qu'est-ce qui pousse ces paysans à se comporter de la sorte?
Ce qui pousse les populations, c'est le fait qu'ils n'ont pas accès, ils n'ont pas les moyens d'accéder aux matières fertilisantes qu'on connaît dans les parties nord du globe. C'est-à-dire les engrais et autres, ils n'ont pas les moyens. Ensuite, une des causes, c'est ni plus ni moins la pauvreté. Les gens, ils vivent sur le dos des ressources naturelles parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens de vivre autrement.
Donc il paraît difficile d'interdire ce type d'agriculture à des gens qui n'ont rien, finalement.
Bon, la bonne manière d'arriver progressivement à éradiquer ce type d'agriculture, c'est de développer... d'apporter le développement aux populations qui pratiquent donc ce type d'agriculture, c'est-à-dire de leur apporter d'autres formes de gagner leur vie. Et ceux qui vont continuer, les populations qui vont continuer à faire ce type d'agriculture, leur apporter de nouvelles techniques pour que cette agriculture ne se déplace pas comme c'est le cas aujourd'hui.
Et ça, c'est quelque chose qui est contrôlable ou pas par des experts internationaux ou par d'autres organisations internationales ou même nationales?
Ah oui, c'est faisable. Je peux vous dire que dans un pays comme le Rwanda ou le Burundi, qui sont des pays densément peuplés, où ils n'ont pas assez d'espace, aujourd'hui, l'agriculture est plus ou moins stabilisé, et ils sont obligés d'associer aux cultures agricoles de l'élevage qui produit du fumier. Le fumier revient au sol et les gens peuvent cultiver en permanence sur le même sol parce que là, il y a des fertilisants qui sont ramenés au sol au fur et à mesure que le sol se dégrade. Donc ça, on est déjà arrivé dans ces deux pays-là à contrôler, disons, à stabiliser l'agriculture. Donc, ça veut dire qu'il faut absolument associer l'animal qui apporte le fumier, et ce fumier permet donc aux cultures agricoles de se développer normalement et à l'agriculteur de ne plus se déplacer pour chercher les zones plus fertiles.
Alors, dans votre rapport, dans le rapport de la FAO, vous indiquez que l'Asie est finalement la seule grande région à avoir renversé la tendance et enregistré un gain net de forêt. Comment vous expliquez ce phénomène en Chine?
En 2005, l'Asie est nommément citée comme étant une des régions du monde qui a réellement réussi à inverser les tendances. Bon, mais la Chine est un très grand pays. Ils ont entrepris de très grands programmes de reboisement, ce qui fait que la tendance à la déforestation a été contrebalancée par ces grands programmes de reboisement, parce que la Chine aujourd'hui devient un très grand pays consommateur de matières ligneuses. Et en prévision de ça, les Chinois ont donc pris le taureau par les cornes et se sont mis donc à planter énormément dans leur pays.
Mais ça veut dire concrètement qu'on replante des arbres, en fait?
Absolument, absolument. C'est-à-dire que la plantation consiste donc à faire des pépinières, dans certains cas, ou dans beaucoup de cas, on fait des pépinières, on élève les jeunes plants en pépinières, donc on sème, on met les jeunes plants dans des sachets plastiques, on les arrose jusqu'à ce qu'ils atteignent une certaine taille. Et entre-temps, pendant qu'on est en train d'éduquer les plants en pépinière, on ouvre la zone où on va planter, c'est-à-dire on laboure. Si c'est vraiment industriel, comme ça semble être le cas en Chine, on laboure et on fait des plantations à très, très grande échelle. C'est-à-dire on peut planter 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 hectares par an.
Il faut du temps pour avoir les fruits de ce travail?
Bon, là aussi, ça dépend des espèces. Il y a des espèces qui poussent qui poussent très vite d'ailleurs. On les appelle des espèces à croissance rapide. Ce sont les eucalyptus. Il y a aussi quelques conifères qui poussent relativement vite aussi.
Ça veut dire quoi, relativement vite?
Oh, ça veut dire qu'après une bonne trentaine d'années, 40 ans, on peut déjà commencer à couper.
Est-ce qu'il existe quand même aujourd'hui des efforts internationaux qui vont dans ce sens? Est-ce qu'il y a des progrès à ce niveau-là?
Je pense que oui. Je pense qu'au niveau international, il y a vraiment des très gros efforts. Il y a le forum forestier des Nations Unies qui se tient régulièrement, où tout le monde se retrouve pour discuter de ça. Il y a toutes les conventions qui ont été adoptées à Rio, et qui sont aujourd'hui avec des secrétariats qui fonctionnent, avec des financements qui sont mobilisés. Je pense qu'il n'y a pas un seul pays aujourd'hui, même des pays africains que je connais relativement bien, qui n'ait pas créé un ministère de l'environnement ou un ministère des forêts, ou qui n'ait pas révisé sa politique forestière pour tenir compte de tout ce qui s'est dit aujourd'hui à travers le monde dans ce domaine. Au niveau international, au niveau des Nations Unies, au niveau de chaque pays, il y a des efforts qui sont faits, mais ces efforts restent encore insuffisants en considération de l'ampleur du problème. Tout le monde est concerné par le problème.
Nous l'avons vu, le réchauffement climatique est la principale conséquence de la déforestation. Les écologistes sont de plus en plus inquiets. Une étude réalisée par des experts internationaux indique que d'ici 100 ans, si nous n'inversons pas la tendance, le climat aura considérablement changé en Europe. La France, par exemple, n'aura plus le même visage. Du coup, c'est notre vie quotidienne qui sera bouleversée. Le portrait d'une France du futur avec Hervé Le Treux, climatologue au CNRS.
Cette France de 2100... elle sera toujours habitable, vivable, mais simplement elle sera différente. Elle sera différente et elle sera devenue très rapidement différente. Ça dessine une fourchette de réchauffement global de la planète qui va de 2 à 6 degrés, ce qui est absolument considérable quand on sait que ce qui nous sépare de l'âge glaciaire, c'est de l'ordre de 5 degrés vers le froid. Donc là, c'est un réchauffement très, très important qui va se produire en quelques décennies. Et ce réchauffement très important, il aura des conséquences locales. Et les conséquences sur la France seront des conséquences directes, liées à l'effet direct de l'augmentation de température, mais aussi des conséquences indirectes sur les ressources hydriques, sur le débit des fleuves, éventuellement sur la santé, et même très indirectes via des mécanismes sociaux ou socio-économiques, de liens par exemple avec des pays où d'autres conséquences climatiques auront lieu, ou conséquences sur le tourisme, enfin sur les activités de service. Donc c'est tout un ensemble de conséquences qui peuvent avoir un impact très fort sur l'économie d'un pays ou d'une région.
Alors imaginons que nous gagnions 5 degrés dans 100 ans, quelles seraient les conséquences sur les milieux naturels, sur l'économie ou encore le tourisme? À quoi pourrait ressembler cette France de 2100?
Que l'on aura favoriseront d'autres espèces, par exemple d'autres espèces de vignes, d'autres espèces de plantes plus adaptées, de cultures plus adaptées aux conditions climatiques qui auront évolué. On aura probablement des sécheresses récurrentes dans le sud de la France, avec aussi un enneigement très faible dans toutes les basses montagnes, qui aura des fois des conséquences sur le tourisme et le ski, mais également sur les réserves en eau, puisque souvent une partie des réserves en eau sont tributaires du stock de neige qui s'accumulait pendant l'hiver. Donc c'est une désorganisation d'un grand nombre de secteurs d'activité, donc le pays restera vivable, on ne parle pas d'une apocalypse, mais on parle d'un choc fort en termes d'activité économique de toutes sortes, parce que beaucoup de nos activités sont très finement équilibrées par rapport à nos conditions environnementales dans lesquelles on vit. On a vécu pendant beaucoup d'années sur l'idée que le climat ne changerait pas, et ce changement brutal va nous forcer, alors dont on espère qu'il sera le moins brutal possible, ça dépend des mesures qu'on prendra, mais ce changement qui sera en partie inéluctable va nous forcer à des adaptations qui seront importantes. C'est évident qu'on a par exemple des cultures qui sont adaptées à des conditions climatiques très, très précises. Si on va avoir une évolution rapide des conditions climatiques, on va être obligé de reconsidérer l'adaptation de ces cultures. Alors par exemple pour les forêts, on a une évolution qui est très très lente et un choix des espèces ou des essences qui a des conséquences souvent plusieurs dizaines d'années plus tard. Il faut essayer d'anticiper au maximum ce que seront ces conditions climatiques futures, essayer aussi de faire qu'elles varient le moins possible si on ne veut pas se trouver avec des massifs forestiers qui sont brusquement inadaptés au climat dans lequel ils vivent. De même, les systèmes d'acheminement de l'eau, les systèmes d'irrigation, le choix de plantes qui sont plus ou moins, qui ont plus ou moins besoin d'eau pour se développer. Tout ça, c'est des choses qui doivent s'anticiper le plus largement possible en fonction de l'évolution des ressources. Si toute la basse montagne se trouve sans enneigement à partir de 2050, ben il faut aussi avoir anticipé en termes d'équipement, de reconversion des équipements, ces évolutions-là. Donc il y a tout un ensemble de conséquences qui, si on n'essaie pas de les envisager à l'avance, vont provoquer des problèmes économiques et sociaux considérables.
Alors les Français qui sont si fiers de leurs Alpes ne pourraient ne plus skier, ne plus pouvoir skier, tout simplement plus de sport d'hiver en France, par exemple.
Les sports d'hiver continueront d'avoir lieu, mais plus haut. Donc ce qui sera menacé, c'est pas vraiment l'enneigement des Alpes de manière générale, mais l'enneigement des Alpes dans les parties basses, hein, ou l'enneigement du Massif central, des Vosges, une grosse partie des Pyrénées, dans les zones skiables les plus basses. Donc on va avoir une mutation nécessaire du ski au fur et à mesure du réchauffement de la planète.
Avec des répercussions sur la santé également, les experts évoquent notamment dans leur rapport un risque de paludisme.
Tout ce qui est santé, c'est toujours très difficile à évaluer. On a fait, enfin, les auteurs du chapitre correspondant du rapport ont été très très prudents à ce niveau-là. Le paludisme, par exemple, existait en France et a disparu grâce à une politique de santé active. Donc le paludisme serait une maladie naturelle en France. Donc s'il n'existe pas, c'est pour des raisons justement artificielles de contrôle de la maladie. Donc on peut difficilement séparer la part dans l'évolution de la santé qui est liée à la politique sanitaire et celle qui peut être liée à des influences extérieures comme le climat. Ce qui est probable, c'est que les influences les plus directes seront aussi les plus importantes. Il y a une mortalité qui actuellement est surtout une mortalité d'hiver et qui peut devenir une mortalité d'été en cas de réputation qui est probable de canicule en été. Donc avoir un changement du type de mortalité tout simplement lié à la renforcement du nombre de canicules pendant l'été.
La France fera face à un véritable péril environnemental en gros.
Oui, on vit dans des sociétés d'Europe de l'Ouest, aux États-Unis, qui sont réellement très finement adaptées à un certain type d'environnement. On a construit dans des régions qu'on pense non inondables, mais qui le sont très souvent. Tout notre habitat s'est construit aussi en référence à certaines normes climatiques qui ne sont pas immuables. Et donc la possibilité de déséquilibrer ou la nécessité éventuelle d'adapter des infrastructures qui mettent du temps à se développer sera nécessairement un problème.
Est-ce que on aura vraiment des saisons bien différentes de ce qu'on connaît aujourd'hui ?
Bien différentes, non. Je pense qu'il faut plutôt imaginer le changement climatique comme quelque chose qui va modifier la récurrence d'un certain nombre, la manière dont certains événements inhabituels vont se présenter. On aura toujours, par exemple, des hivers froids et des hivers chauds. Simplement, le nombre d'hivers chauds augmentera par rapport au nombre d'hivers froids. On aura toujours des étés avec canicule ou sans canicule. Simplement, les étés avec canicule seront plus nombreux et les canicules éventuellement plus intenses. Donc c'est plutôt la répartition statistique des événements les plus extrêmes qui risque d'être modifiée et donc qui risque de frapper des installations, des populations, des activités économiques de manière répétée, là où souvent c'est une fois de temps en temps et assez rarement.
En Provence, par exemple, on n'aura pas de la steppe non plus.
Non. On peut avoir une évolution de la végétation consistant à avoir des essences un peu plus méditerranéennes. On va avoir probablement une un sud de la France qui ressemblera un petit peu plus à l'Espagne en matière de végétation préférentielle. On va pas avoir des dunes sur les Champs-Élysées. Il n'y a pas non plus de, il faut essayer de situer la juste mesure de ce qui va se passer, qui est déjà assez important, sans tomber dans des caricatures.
Voilà pour ce magazine, merci de l'avoir suivi. Mondoscopie était consacrée cette semaine à l'environnement. La semaine prochaine, nous nous intéresserons au problème des armes. À très bientôt.